3 hier soir en marge du match de foot Belgique-Suède. Deux supporters suédois ont été abattus à l'arme automatique dans le centre-ville de Bruxelles par un homme qui se serait revendiqué de l'État islamique. Le terroriste a été neutralisé ce matin, mortellement blessé lors de son interpellation. L'Europe se retrouve comme rattrapée par la menace djihadiste. Depuis vendredi, la France est en urgence alerte attentat. Depuis l'attaque mortelle contre Dominique Bernard, 57 ans. Le professeur de français a été tué à l'arme blanche dans une cité scolaire d'Arras par un ancien élève qui aurait prêté allégeance à l'État islamique. Comment parvenir à faire bloc dans un moment d'extrême tension?
L'émulation et d'entraînement dans ces moments très tendus. C'est clair. Encore une fois, on voit les images des attentats tournés sur les réseaux. On voit tout de suite des revendications de la propagande qui insiste sur le côté héroïque de ce qui s'est passé. Et évidemment, ça incite d'autres à passer à l'acte.
Oui, alors en fait, là, je pense qu'il s'agit peut-être moins de djihadisme que l'expression de ce que les djihadistes ou même les salafistes appellent le désaveu. Le désaveu, c'est quoi? C'est un concept qu'ils prônent et qui consiste à dire qu'il ne doit exister aucune passerelle entre en fait une identité musulmane qui est totalisante, qui serait totalement insoluble dans une autre identité, notamment une identité de Français, d'Européens, de citoyens. Ça, c'est un concept qui a été popularisé dans les petits cercles salafo-djihadistes à Londres dans les années 90 et qui a connu une évolution au point de devenir une des pierres angulaires de la propagande de Daesh. Et cette idée, c'est de dire que en fait, il faut préparer les esprits en amont. C'est ça que les djihadistes... Et en rejetant absolument tout ce qui vient de la démocratie. Et donc, les hommages aux victimes, par exemple, c'est sur un plan symbolique. Donc, encore une fois, c'est pas du djihadisme, mais c'est de marquer une sorte d'étanchéité, notamment dans l'émotion et donc dans la commémoration, en l'occurrence, là, d'une victime qui est non seulement un professeur, un enseignant de très grande qualité, par ailleurs, mais en plus...
Symbole de la laïcité.
Symbole de la laïcité et puis symbole de courage. Il ne faut pas oublier que cet enseignant s'est interposé. Donc ces incidents sont graves, probablement sur la forme. Ils sont aussi graves sur le fond. Et il faut donc s'intéresser à l'amont de l'acte djihadiste. Donc l'amont, si vous voulez, du terrorisme, c'est-à-dire la question politique au sens large.
En criminologie, ce qui nous intéresse, c'est le passage à l'acte et tous les facteurs qui prédisposent au passage à l'acte. Les réseaux sociaux en sont, mais ils ne sont pas tout seuls, bien sûr, parce que on peut se former, on peut être galvanisé sur les réseaux sociaux, y compris jusqu'à la fabrication d'un attentat, j'allais dire, de facilité sur des choses assez pratiques. Mais ce qui est intéressant, c'est le côté aussi, toute l'atmosphère qui est politique, comme par exemple l'appel au djihad qui a été fait il y a quelques jours, qui n'est pas du tout anodin. Je trouve qu'on n'en a pas beaucoup parlé,
mais
c'est, qui a été fait par le chef du Hamas, qui a été un appel au djihad qui est mondial. Et ça, c'est intéressant parce qu'on voit très bien que dans les leviers de passage à l'acte, il n'y a pas de frontières. Nous sommes totalement dans un village monde. On est dans une mondialisation et la géopolitique, en fait, elle est également au cœur de nos idées. C'est-à-dire que ce qui se passe à 10 000 km
est
a
importé,
une résonance immédiate. Et évidemment, le dernier, et c'est ça qui intéresse beaucoup la police et qui fait peur par rapport aux chiffres, peut-être on en reparlera, de toutes ces personnes qui sont identifiées comme extrêmement dangereuses, alors fichiers S, FSP, RT, enfin peu importe, il y en a quand même beaucoup, c'est le côté mimétique de la violence. René Girard, on connaît ça, c'est pas nouveau, mais c'est efficace. C'est-à-dire que quand vous voyez, pour des personnes qui sont un peu fragiles, ou en tout cas qui sont pas sûres d'y aller, qu'il y a un premier passage à l'acte, ça galvanise des personnes qui n'osaient peut-être pas, qui se disent, mais moi aussi je peux le faire, je peux faire ce sacrifice. Et comme on est dans une perspective un peu de martyr. Ces passages à l'acte sont très compliqués pour les services de renseignement parce que ce sont des personnes qui sont prêtes à mourir. C'est pas simplement des personnes qui sont prêtes à faire un attentat puis un autre. Elles s'inscrivent pas dans un temps long. Je sais pas si Hugo sera d'accord avec moi. Mais là, c'est la problématique du renseignement. Quand est-ce que j'interviens? À quel moment j'interviens, etc.
Et mais avant, dans l'environnement, s'il est lointain...
Oui, mais il faut faire très attention avec ces concepts. Là, on voit très bien que dans le cas de cet individu, donc l'assassin d'Arras, il y avait un environnement familial qui était très identifié. Il y a un des frères qui est en détention. impliqué dans un attentat très grave contre l'Élysée, un autre arrêté devant un autre. Et cette dimension familiale, elle est très importante parce que c'est une des mutations des cellules terroristes. Avant, on avait des, typiquement avec Al-Qaïda, on avait des cellules terroristes qui étaient professionnelles. Donc on a, les gens se cooptaient et c'était une forme de, si vous voulez, de service de renseignement de djihadistes qui se cooptaient, qui se connaissaient, qui vivaient dans le secret. Là, ce sont des familles qui partagent une idéologie. Et qui, à un moment donné, ben, il y a les individus qui vont s'investir dans différentes causes. Donc l'un en soutien à Daesh pour cet attentat, l'autre l'a décidé d'attaquer un enseignant. Et donc c'est important de comprendre, et ça c'est une des innovations de Daesh sur la dernière décennie, c'est à partir du moment où le califat a ouvert ses portes en fait, à des femmes, à des enfants, à des personnes âgées, si vous voulez, ça transforme totalement la manière de vivre le djihadisme. C'est-à-dire que maintenant, ça peut se projeter dans un couple. Et donc là, on le voit avec cette famille. Donc c'est pour ça...
Le djihadisme familial,
et encore, c'est
comme ça.
Et exactement. Et peut-être la différence avec l'assaillant de Bruxelles hier, c'est d'une.
Qui a tué deux Suédois.
Les armes. Il était quand même assez lourdement armé. Il avait une Kalachnikov. Là, c'était un couteau. Et l'autre aspect, c'est que dans le deuxième cas, Bruxelles, il y a eu une revendication immédiate au nom de l'EI.
Et puis comme ça, on s'attaque comme toujours aux symptômes et pas du tout aux causes. Que ce soit des étrangers qui commettent ces attentats en tant que victimes du 13 novembre, je regarde ça avec certains questionnements. Nous, le cœur de la cellule était quand même franco-belge. Donc ça tombe bien aujourd'hui. Comme après chaque attentat, en fait, on se focalise sur le petit bout de l'entonnoir, c'est-à-dire on regarde le dernier, on se dit finalement sous le coup de l'émotion, qu'est-ce qu'on pourrait passer comme loi ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme annonce ? On les fait, et puis on ne regarde jamais leur efficacité. Alors attention, je ne veux pas dire que rien n'a été fait. Depuis 2015, voire même depuis 2012, il y a eu une amélioration de l'organisation de nos services de renseignement, de l'organisation de la police, probablement aussi dans la magistrature, une montée en puissance des magistrats antiterroristes, qui ont permis quand même de juguler plein de choses. Mais encore une fois, on est dans le traitement des symptômes. On n'est pas dans le traitement des causes. La vraie chose à regarder, c'est les chiffres. Combien de personnes en France sont jugées comme étant susceptibles de passer à l'acte ? Et là-dessus, on ne progresse pas.
On ne progresse pas, c'est-à-dire ?
Suffisant. Oui, moi je pense qu'on a déjà un arsenal qui est déjà sur le plan juridique assez intéressant. Même certains pays nous l'envient, puisqu'on a une infraction qui est l'association de malfaiteurs, qui permet, avec des juges d'instruction, ce que tous les pays n'ont pas, d'appréhender juste avant le passage à l'acte et de déjouer comme ça pas mal d'attentats des cellules terroristes. Donc on a un arsenal qui est intéressant et on a une organisation qui est aussi intéressante, puisqu'on a des juges qui sont renforcés, qui ont été spécialisés, etc. Il reste encore, à mon avis, des zones d'amélioration qui sont évidentes parce que, et c'est le titre, je crois, de votre émission, est-ce qu'on est bien armé ? Le droit est une arme à double tranchant. Elle peut en effet être efficace ou pas, mais elle peut être efficace pour, ou pas efficace pour deux raisons. Un, parce qu'elle n'est pas appliquée. On va commencer quand même par le plus simple. C'est pas parce que vous avez un arsenal, si vous l'appliquez pas, eh bien, elle n'est pas efficace. Ou parce qu'elle n'est pas totalement bien ciblée et qu'elle ne veut pas jusqu'au bout de la logique. Je pense qu'aujourd'hui, on a un peu les deux. Oui. C'est-à-dire qu'on a une partie qui n'est peut-être pas assez bien appliquée, mais on a encore des zones qui sont compliquées. Les premières, je vais en citer deux. Oui. La première zone, c'est toute ce qu'on appelle la lutte contre l'islamisme, c'est-à-dire ce qui arme les terroristes. C'est-à-dire que là-dessus, il y a une zone un peu floue, et on le voit puisque c'est toujours les débats qu'on a sur qu'est-ce qu'on fait des fichiers S, qu'est-ce qu'on fait de ces personnes dangereuses, est-ce qu'elles sont vraiment dangereuses. Donc il y a toute cette partie dont on sait qu'elle est particulièrement dangereuse, et on a eu une loi sur le séparatisme, mais qui a plutôt privilégier la juridiction administrative et pas pénale. Et on a un deuxième, j'allais dire, point un peu difficile, ce sont les prisons que mon voisin connaît bien, qui sont encore des passoires et qui sont encore des lieux de continuation de l'activité, voire du prosélytisme. Et là, je crois qu'on n'est pas allé jusqu'au bout d'une réflexion sur des établissements spécialisés, sécurisés, etc. Je m'arrête là, mais il y aurait encore des choses à dire.
Parce que je pense qu'il faut même sanctuariser au maximum l'état de droit et le danger, ça serait de croire qu'il faut détricoter ça. Par contre, il faut bien distinguer deux choses. L'arsenal juridique en France, effectivement, vous le rappelez très justement, il est très développé, mais il sert à contrer la menace terroriste. Et ce dont on parle, c'est il y a du djihadisme en dehors des attentats. Et c'est les attentats interviennent par intermittence et nous rappellent qu'il y a du djihadisme. Mais l'idéologie djihadiste est là depuis 30 ans et se construit indépendamment aussi des actes terroristes. Donc les lois ne vont pas tout régir. Et c'est là où, en fait, et je veux le dire aussi pour les personnes qui nous regardent, c'est trop facile de surresponsabiliser à un moment donné l'État et de dire c'est l'État qui doit régler le problème djihadiste, alors que l'État peut, et les services de l'État peuvent gérer peut-être la menace terroriste. Mais la question politique revient, en fait, à tous les citoyens, à toutes les citoyennes. Et c'est pour ça qu'il faut se poser la question, en fait, des valeurs démocratiques que ces djihadistes visent systématiquement. Pourquoi ils visent l'école? Ils visent tout le monde à travers l'école, évidemment. Ils s'en prennent à un professeur, mais ils intimident tous les autres. Ils cherchent à intimider, à affaiblir ce qui est le creuset de la production des jeunes citoyens, de l'émancipation individuelle, etc.
C'est un combat auquel on doit tous être associés. Si vous voulez, les grandes expressions qui reviennent pour les grands combats politiques ces dernières années, c'est un Grenelle, c'est le quoi qu'il en coûte. On n'a jamais fait ça contre le terrorisme. C'est toujours resté un débat de spécialistes, quelque part, et on n'a jamais réussi à avoir un consensus. Moi, je suis frappé pour avoir parlé quand même avec un certain nombre de juges, de présidents d'assises. Ils ont entendu, eux, beaucoup de terroristes, ils les ont interrogés, ils ont des idées sur les causes de la radicalisation et ainsi de suite. Cette information-là n'est jamais utilisée par les politiques. On n'arrive pas, finalement, à regrouper les différents pôles de savoir qu'on a sur le sujet et à ce qu'ils diffusent dans la société. Et ça, c'est un de nos problèmes.
Sur quelque chose qui a été très cloisonné. Les anglo-saxons, d'ailleurs, avaient pris de l'avance là-dessus, ne serait-ce que dans la recherche de la compréhension de ce qui est en train de se développer. Et là où je suis tout à fait d'accord, parce qu'on a changé d'échelle. En fait, le problème du terrorisme aujourd'hui, les chiffres, il faut les ramener à une forme, il faut les ramener aussi à la réalité criminelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un terrorisme de masse. Là où on avait un terrorisme qui était un peu résiduel, qui est devenu un terroriste de masse. Ça veut dire qu'on a changé aussi de logiciel sur le plan de la société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez totalement raison, il n'y a pas de risque zéro. Ça veut dire que tout le monde doit changer sa vision des choses et prendre sa part de responsabilité dans une défense collective qui est d'abord intellectuelle, mais qui est aussi celle d'apprendre à sauver des vies, d'être hyper réactif, vigilant, ce qui ne veut pas dire délation, mais vigilant. Et c'est-à-dire que la pierre angulaire du succès de la lutte contre le terrorisme, c'est le renseignement. Et ce n'est pas que les services de renseignement. C'est-à-dire que c'est toute une partie, si vous voulez, de la population qui doit être aussi en alerte par rapport à ce qui se passe et ne pas être naïf. Ça ne veut pas dire de faire de la délation. Non, ce n'est pas du tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas, comme dit, je crois que c'est vous, Hugo Michon, il ne faut pas tout attendre de l'État. C'est dans ce sens-là.
Au contraire, ce que cherchent à faire les djihadistes avec des attentats comme celui-là, c'est nous faire dérailler, à commencer par perdre tout le sens des mesures. Système en France, la démocratie française, j'ai envie de dire, les pays européens ont tout vécu en 250 ans. C'est pas, même si c'est absolument dramatique et je sous-pèse mes mots, mais c'est pas des attentats comme ceux qu'on a connus qui doivent faire dérailler tout le système. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que il y a dans le cadre de l'état de droit des mesures qui peuvent être prises pour répondre à la menace terroriste. L'Europe, 450 millions de citoyens, devrait être en capacité de gérer quelques dizaines de milliers de personnes. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, là où l'enjeu est politique, c'est que ce qui vise, c'est les valeurs du libéralisme politique, c'est-à-dire les principes fondamentaux qui sont constitués de toutes les sociétés européennes. Et nous, on les a dépolitisés, on les a dévitalisés. On considère que ça va de soi de vivre en liberté et on ne comprend pas qu'eux, ils surpolitisent leurs propos et leurs mouvements. Et quand ils visent l'école, par exemple, ils cherchent à faire dérailler. Mais si vous prenez chaque professeur individuellement et qu'il a peur, effectivement, c'est un énorme problème. Mais si le professeur sent qu'il appartient à un corps d'enseignants de 200 000 personnes, c'est plus tout à fait la même chose. Donc encore une fois, le rapport de force, ça dépend comment vous le situez. Oui. Ce qui est sûr, c'est que tout ça va passer par la compréhension de la menace. Oui. Et cette menace, elle n'est pas que terroriste. Une fois qu'on a fait ça, ce passage, après, tout peut découler.
Arthur.
De notre société, liberté, égalité, fraternité. Et ça, ça nous dit ce que le terroriste n'aime pas. Ça ne veut pas dire non plus qu'on a besoin d'une fausse unité et qu'on doit mettre le débat sous cloche. Il y a un débat politique important qui doit jaillir de ça. Il y a des solutions qui peuvent arriver, ou pas. Jusqu'à présent, il en manque visiblement quelques-unes à notre arsenal. Et donc faire bloc, ce n'est pas non plus montrer qu'une seule tête. C'est montrer qu'on est tous dans le même camp et qu'on est tous contre le terrorisme.